Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui manie les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reçois Vanessa Krisev et Alix Gerbet.
Dès le début, dans vraiment l'ADN du projet, il n'a jamais été question de cuisiner pour et d'avoir une notion de aidant-aider, mais il a toujours été dès le début question de vraiment se servir de la cuisine comme un langage. Et en fait, ça vient, donc Vanessa qui dit qu'elle avait des expériences d'atelier de cuisine. Moi, avant, j'étais à l'atelier des chefs. Et donc, en fait, on avait cette connaissance de l'atelier de cuisine comme un outil pour ramener les êtres humains ensemble, en fait. On l'avait vu dans les différentes prestations qui avaient pu avoir lieu ou les différents ateliers qu'on avait animés, qu'en fait, il se passe quelque chose d'extrêmement singulier dans un atelier de cuisine. Et c'est magique. Et c'était ça qui nous intéressait, en fait. Et donc, dès le début, ça a toujours été ça, en fait. C'était une relation très horizontale qui a été générée par le fait de cuisiner ensemble un repas qui allait être pris ensemble. Donc, ça a été là depuis le début.
Vanessa Krisev, comédienne, auteure et cuisinière, est la chef de file du Réchaud, association qu'elle a montée en 2016 avec toute une bande avec qui elle est partie donner du réconfort par la cuisine dans les camps de réfugiés du nord de la France. Depuis, avec Alix Gerbet entre autres, l'association a bien grandi et a ouvert un restaurant d'insertion inclusif et solidaire qui forme des personnes réfugiées au métier de la restauration et qui plus est délicieux. À travers ce projet, elle met en lumière le pouvoir magique de la cuisine qui sert de langage universel, crée du lien et restaure à tous les niveaux. Avec Vanessa et Alix, nous avons parlé de faire ensemble, de puissance, de solidarité locale et de cuisine à la flamme. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Bonne écoute! Bonjour Vanessa, bonjour Alix. Aujourd'hui, le Réchaud, c'est une association, un restaurant, un food truck... une entreprise d'insertion, si je ne me trompe pas aussi. Vanessa, t'imaginais ça quand t'as lancé l'association ?
Alors, en 2016, quand on a lancé le premier projet, non, je pense même pas qu'on imaginait que ça durerait plus que la première mission. Mais en même temps, tout était déjà écrit dans les statuts qu'on a déposés et on est exactement sur la lignée de ce qu'on avait écrit à l'époque.
La première phrase du livre, c'est « Elle ne savait pas que c'était impossible, alors elles l'ont fait ». C'est vraiment ça ?
Je pense, ouais. Je pense que vraiment, c'est exactement ça, ouais.
Tu te serais pas lancée si t'avais su la montagne
Si on avait réfléchi à l'époque, on n'aurait peut-être pas fait. Mais comme beaucoup de choses dans la vie, en fait, je pense que c'est pas mal d'apprendre à nager en nageant.
Oui. Et le fait d'être une équipe dès le début et d'être 7... d'avoir Vanessa qui a eu l'idée et qui était la mère nourricière, mais d'avoir derrière cette femme et d'être un groupe et d'avoir des compétences différentes aussi, ça nous a donné une force surhumaine, je pense.
Et cette amie aussi. Je pense que l'amitié qui nous a réunis dès le départ a aussi donné la force au projet.
Donc concrètement, c'est une histoire triste que tu racontes dans le livre et que tu peux peut-être raconter qui t'a donné l'idée de faire ça. Et ensuite, t'as pris ton téléphone et appelé tes copines. Enfin, si tu veux nous raconter l'histoire.
Oui, bah, je dis c'est une drôle d'histoire triste, en fait, toute cette histoire. C'est en 2016, à l'époque où on parlait beaucoup de la crise des réfugiés, où c'était peu de temps après les images extrêmement frappantes du petit Elan qu'on avait retrouvé mort sur une plage et qui sont devenues des images malheureusement communes et auxquelles on fait même plus attention, mais qui nous avaient énormément meurtri à l'époque. Et en 2016, au moment où l'Allemagne, enfin avec la crise syrienne, avait annoncé qu'ils accueillaient 1 million de personnes réfugiées, donc qui faisaient vraiment qui se démarquaient dans leur politique de l'accueil européenne. J'ai reçu un coup de téléphone de ma sœur qui vit donc en Allemagne depuis des années et qui me racontait avoir croisé la route d'un couple de réfugiés syriens qui se sont adressés à elle dans un français parfait parce qu'ils avaient entendu qu'elle parlait français au téléphone. Ils ont échangé, ils faisaient la manche. Lui était médecin, elle ingénieure, 2 enfants accueillis dans un centre d'accueil. Et pourtant, ils avaient faim parce qu'ils n'avaient rien pu manger au dîner parce qu'on leur avait servi de la soupe au porc le soir de leur arrivée. Et ça l'a vachement choquée. Elle ne savait pas comment aider. Et elle a donné un peu d'argent, mais elle voulait faire plus. Et puis moi, ça m'a choquée au niveau citoyen, mais ça m'a aussi vachement choquée en tant que restauratrice et en tant que cuisinière. Et ça m'a beaucoup interrogée sur les valeurs de notre métier de restaurateur, de restauratrice. Et je me suis dit, comment se fait-il aujourd'hui qu'on ait oublié à quel point l'accueil passe avant tout par l'assiette et que c'est un lieu commun partout dans le monde, dans n'importe quel pays, même les pays extrêmement pauvres, que cet accueil de l'inconnu, cet accueil de l'invité dans une maison ou dans une communauté passe par un temps assis autour de la table avec un repas approprié. Et donc la première envie, le premier besoin, c'était de cuisiner pour réparer, donc cuisiner pour restaurer au sens étymologique du terme. Et ça s'est très vite monté parce qu'en effet, ça m'a travaillé. J'avais l'expérience des ateliers de cuisine, des ateliers collaboratifs, de mon expérience de cuisinière aussi indépendante. Et j'en ai parlé à une amie d'abord actrice qui m'a dit « Ah, mais moi, je suis pas cuisinière, mais... j'ai envie d'en être, c'est une super idée et il faut qu'on fasse aussi des ateliers, etc. » Ça s'est co-construit comme ça. Et puis on a parlé aussi avec des copines cuisinières et des copines passionnées juste de cuisine. Et donc, on s'est retrouvés à 8, 9, 10 autour du projet en 2016.
Toi, tu étais cuisinière et actrice.
C'est ça. C'est ça. De formation, ouais.
Et donc, la cuisine a finalement, pas cuisine, au sens large,
c'est la cuisine, c'est se raconter des histoires, en fait. Et je pense que j'aurais pas eu cette idée s'il n'y avait pas vraiment la question du langage et la question du récit et de la transmission du récit. Parce que là, la cuisine, c'était une façon de délier les langues et de se rencontrer et de réhumaniser le concept même. L'idée même de la personne, enfin des réfugiés, on parle des réfugiés, mais c'est pas très humain en fait, et encore, réfugié ou exilé, c'est mieux que migrant, mais il y a quelque chose de très déshumanisé, et se dire qu'en cuisinant ensemble, on va accéder à la mémoire de l'autre et à l'histoire de l'autre, et ben on passe presque dans un côté théâtral porté par la cuisine. Quoi.
Et ça, c'est quelque chose que vous avez imaginé toutes les 8-9 vraiment construire comment vous alliez vous y prendre et pas juste aller donner à manger ou vous avez beaucoup parlé pour arriver à ça.
Ce qui est certain, c'est que dès le début, dans vraiment l'ADN du projet, il n'a jamais été question de cuisiner pour et d'avoir une notion de aidant-aider, mais il a toujours été dès le début question de vraiment se servir de la cuisine comme un langage. Et en fait, ça vient, donc Vanessa qui dit qu'elle avait des expériences d'atelier de cuisine. Moi, avant, j'étais à l'atelier des chefs. Et donc, en fait, on avait cette connaissance de l'atelier de cuisine comme un outil pour ramener les êtres humains ensemble, en fait. On l'avait vu dans les différentes prestations qui avaient pu avoir lieu ou les différents ateliers qu'on avait animés, qu'en fait, il se passe quelque chose d'extrêmement singulier dans un atelier de cuisine. Et c'est magique. Et c'était ça qui nous intéressait, en fait. Et donc, dès le début, ça a toujours été ça, en fait. C'était une relation très horizontale qui était générée par le fait de cuisiner ensemble un repas qui allait être pris ensemble. Donc ça a été là depuis le début.
Et l'autre aussi volet, c'était de leur donner la possibilité, de donner la possibilité à des personnes qui sont en exil et qui n'ont plus rien, de pouvoir se raconter et donc inviter, si on parle d'aidant aider, enfin en quelque sorte, c'est vraiment d'interchanger les rôles et de leur dire voilà, on vous donne la possibilité de nous inviter, nous, à votre table et d'être vous, nous, ensemble les autres et de partager ce repas-là pour mieux se découvrir.
Oui, partager une recette... qui vient d'ailleurs, qu'on ne connaît pas et qu'on aura désir d'apprendre une nouvelle technique. Et donc, vous avez acheté le food truck, vous êtes parti à Grande-Synthe, c'était la première mission.
Ça allait très vite, puisqu'on a déposé les statuts de l'association en mai, et en août, on était à Grande-Synthe avec 50 000 euros sur le compte de l'asso, dont 32 000 euros collectés via un crowdfunding. Nous, on était vierges de tout. On savait pas ce que c'était que l'associatif, pas ce que c'était qu'un crowdfunding et non plus, l'humanitaire, il n'y en avait pas beaucoup dans l'équipe qui en avait fait. Donc, tout était très spontané. Mais quand on a lancé ce crowdfunding, on a vu que tout de suite, il y avait une très grande volonté de la collectivité, de la communauté et des citoyens de participer et de s'embarquer sur un projet comme celui-ci. Mais parfois, les gens savaient juste pas comment s'y prendre. Donc, quand on a été moteur et quand on a proposé le projet, il y a 750 personnes qui ont voulu mettre leurs graines. Et ces 750 personnes qui nous ont permis d'acheter ce food truck. Et en août, on était à Grande-Synthe et on cuisinait avec une trentaine de bénévoles chaque jour.
Et des bénévoles qui venaient des environs
ou ouais. Vous avez il y a même des bénévoles qui venaient de Belgique, des bénévoles qui sont venus beaucoup plus loin aussi en France. On avait aussi bien des personnes engagées dans la politique, il y a eu de tous les âges et de tous les profils.
Et on avait surtout le tissu associatif local, parce que en fait, l'identité aussi du réchaud et le savoir-faire qu'on a développé depuis 4 ans, c'est aussi de créer du lien. C'est vraiment ça, et c'était aussi s'appuyer sur le savoir-faire des associations qui étaient déjà à Grande-Synthe, sur le camp de la Linière, et qui sont venues tous les jours cuisiner avec nous, et qui nous ont, en fait, depuis qu'on a commencé cette action, les portes ne cessent de s'ouvrir et pas de se fermer.
Et tu disais le lien aussi, le lien avec les populations locales aussi, qui est très fort et que vous avez développé après à Arras. Mais c'est vrai que c'est à la fois remettre à plat le côté aidant-aider, mais aussi, je ne sais pas si on peut dire intérieur-extérieur, mais en tout cas local et de plus loin.
C'est ça. Et l'idée, c'était de dire on ne va pas arriver et faire, on va venir... comprendre, questionner et faire ensemble. Et en fait, ça change tout.
Et tu disais, Vanessa, que vous aviez peu d'expérience dans l'humanitaire. Ça a été difficile de se... J'imagine qu'il y a des codes ou je sais pas, tu vois, tu découvres aussi des choses sur le tas.
Alors, estime qu'on fait pas vraiment, on fait du solidaire, on fait pas de l'humanitaire, on n'est pas sur de l'aide alimentaire, on est vraiment sur la cuisine pour tisser du lien. La grande découverte, ça a été l'associatif. Et on a commencé, tout a été vraiment très raccourci parce qu'il a fallu tout mettre en place en 3 mois, finalement, sur une mission quand même importante puisqu'on cuisinait 500 repas jour, donc il y avait une vraie logistique derrière. Mais on s'est retrouvés en amont sur le terrain, sur le camp, en tant que bénévole. Comprendre avec les associations un peu si notre projet avait du sens ou pas et voir ce que ça donnait. Et puis on s'est retrouvé aussi rapidement avec la mairie à discuter avec les associations et tout. Donc ça, c'est un monde qu'on a découvert. Et l'autre partie qu'on a découverte aussi, c'est le monde des personnes exilées, des personnes en exil et qui est un monde dur. On se retrouvait pas du tout, c'était pas du tout un projet idéaliste où on se retrouvait au pays des bisounours, quoi. On était quand même sur des problématiques extrêmement sérieuses, lourdes, et avec des personnes qui ont vécu des gros traumas. Et on se retrouvait sur un camp avec 90% d'hommes, voilà, à 6-8 jeunes femmes parisiennes. Donc ça a levé aussi la question du féminisme, de la place de la femme dans ces communautés, et ça a interrogé mutuellement nos propres cultures.
Et comment réagissaient les gens sur place ?
Bien, je dirais.
Ouais, ça s'est fait assez rapidement, et très rapidement, un peu comme ce qu'on a vécu à Arras d'ailleurs, les étiquettes tombent, les a priori tombent, et parce qu'il y a un projet commun en fait. Et donc, on arrive avec cette proposition et ce savoir-faire des ateliers de cuisine, les associations locales, depuis la fin de la guerre du Kosovo. Ça va faire 20 ans qu'elles nourrissent. Et on n'était pas du tout dans une dynamique de remplacement. Par contre, ce qu'on leur proposait juste, c'était de voir avec nous comment ça serait possible de faire des ateliers et de les faire participer à la production des repas. Donc ça, c'était extrêmement complémentaire.
À partir d'un certain moment, quand on arrive sur un camp où on vient avec toutes ses peurs et ses projections, parce qu'il y a ce mot réfugié qui finalement est assez vague, assez obscur, et même ce concept du camp de réfugiés. Et finalement, en fait, une fois que la barrière est passée, c'est juste des êtres humains, en fait, et c'est juste un humain et un humain qui sont en train de faire quelque chose qui est très simple, hein, c'est faire de la cuisine. Et en fait, tout disparaît. Et du coup, on n'est même plus des jeunes femmes contre des hommes isolés, on est juste des gens humains qui partagent un truc humain et qui fait du bien à tout le monde. Et c'est vraiment aussi cette notion de restaurer. Elle est aussi là, et la volonté, c'était vraiment de réparer, en fait. Parce que les camps, c'est aussi des zones où il n'y a pas de temporalité, où les journées sont indéfinies, où il ne se passe rien. En général, le soir, en tout cas à Grande-Synthe, c'était surtout des populations kurdes qui voulaient passer en Angleterre, donc ils essayaient de passer le soir. Et donc, du coup, le matin, ils ne faisaient rien parce qu'ils dormaient. Et nous, le fait d'arriver, de proposer une activité à horaire fixe, avec une espèce de temporalité, ça faisait que ça rendait tout plus simple.
Ouais, de rythmer, rythmer aussi les journées. Vous avez servi combien vous avez préparé combien de repas pendant cette première campagne ?
Le matin, on était à 150. Donc comme le matin, comme disait Alix, les personnes dormaient parce qu'elles avaient passé la nuit dehors. On arrivait vers 14h avec le repas du déjeuner et on les invitait à notre table. En ayant préparé le déjeuner, là, on était sur 150. Et ensuite, on était sur 350 l'après-midi. À partir de 15h, on montait les ateliers. Et on transformait les cuisines collectives ouvertes, c'est très très rudimentaire. On installait le barbecue, qui est un immense barbecue dans un tonneau ouvert. Et là, on montait la jauge à 350. Et cette idée aussi de challenge culinaire, de dire vous n'êtes pas cuisinier, mais on va le faire ensemble. Nous, on était garants de la qualité de ce qui était servi à minima, toute la logistique,
l'organisation,
aussi, du fait que le dîner devait être servi quand même à un horaire acceptable et fixe pour les bénévoles aussi qui étaient présents, qui avaient des grosses journées. Mais ça se faisait sous nos yeux sans qu'on ait besoin... On le faisait parce que c'était un plaisir, mais qu'on ait réellement, nous, cuisiniers et cuisinières, besoin de cuisiner.
Et c'était complètement ouvert, en fait, des tables ou des postes, et les gens viennent et s'installent et commencent à...
Les cuisines étaient complètement ouvertes. C'était un bâtiment ouvert sur l'extérieur. Alors, on avait un noyau dur d'habitués, de personnes qui ont voulu et qui revenaient avec des copains et qui, voilà. Mais ensuite, n'importe qui passait et pouvait s'intégrer, venir couper une carotte et puis partir. Les enfants passaient aussi. Il y a eu des trucs très, très beaux qui se sont passés avec les femmes aussi, parce qu'il y a certaines recettes au fil du temps. On est resté quand même un mois, donc au fil du temps, on disait « Ah bah tiens, t'as pas une recette, on se comprenait de mieux en mieux. » Et il y a certaines recettes, en fait, qui sont réservées aux femmes. C'est les femmes qui préparent. Par exemple, les dolmas, qui sont des espèces de légumes farcis ou des feuilles de vigne farcies, c'est réservé aux femmes. Donc, les garçons disaient « Ah bah, je vais demander à ma cousine, à ma belle-sœur qui est là. » Et donc, on a aussi touché, on a réussi petit à petit à avoir une certaine mixité, ce qui n'était vraiment pas gagné. Et par ailleurs, on avait des ateliers dans le bâtiment qu'on appelait le Women's Center, atelier donc réservé aux femmes, pour que les femmes puissent être présentes en force, se dévoiler, se raconter aussi. Et il y a certaines femmes qui acceptaient de venir participer aux ateliers mixtes. Mais ça a été possible en août 2016. En mars 2017, ça a été nettement plus compliqué, la mixité.
Pourquoi ?
Parce que ça avait pas mal évolué, que c'était après la fermeture de Calais, qu'il y avait des tensions sur le camp et que... les communautés s'étaient encore plus raccrochées à leur mode de fonctionnement, je pense. Donc, on a réussi une fois ou deux à faire en sorte que les femmes soient vraiment mises en valeur et mangent avec les hommes. Mais c'est compliqué. Hein. C'est pareil, quand on n'est pas de la même culture, on arrive avec nos idées féministes, d'égalité, de parité. Il y a du chemin. Hein. Il y a du chemin à parcourir. C'est parfois inconcevable même par les femmes. Les femmes ne voulaient pas elles-mêmes servir le repas en présence des hommes. Enfin, il fallait vraiment faire des espaces.
Oui, puis c'est, tu ne peux pas imposer aussi ta vision à ces
on
personnes-là.
On a une femme warrior qui... vraiment pas l'identité du projet. Ouais. Quoi. L'idée, ouais, c'est d'arriver, de comprendre, d'offrir, de faire ensemble et quelque part, ben, de faire aussi un pas vers l'autre et de s'ajuster. Quoi. On n'a fait que ça d'ailleurs, s'ajuster, s'adapter... Mais il n'y a eu aucun conflit, il n'y a eu aucun moment de tension, on n'a jamais eu peur. Et voilà, et juste, je reviens sur la cuisine, parce qu'on dit la cuisine sur le camp, mais en fait, la cuisine, c'était des tables en U, et dehors, quatre barbecues à même le sol, et l'eau, c'était dans des bacs, enfin, c'était vraiment...
rudimentaire.
Mais oui, mais, oui c'était, mais ça a marché.
Mais on faisait tout sur le barbecue, on faisait des lasagnes, du coup des lasagnes tatin en fait, ouais, sur le barbecue, on faisait les falafels cuits dans des... Et on le faisait pour 350, donc on était à peu près sur 8 gros bacs gastro côte à côte, et ouais, on a redécouvert la cuisine à la flamme quoi.
C'est ça.
Et après, donc à la fin de l'été, vous n'avez pas voulu vous arrêter. Ce projet qui était, enfin que vous aviez imaginé éphémère, vous avez eu envie de le pérenniser.
Ben, en fait, je pense qu'il y avait vraiment ce truc de se dire, mais ce que je disais tout à l'heure, les portes s'ouvrent. Et en fait, on a senti une telle puissance, une telle humanité et une telle magie sur le camp. Et on nous a tellement dit que ça faisait du bien, que c'était juste, qu'il fallait plus d'événements et d'initiatives comme nous, que ben, quelque part, ça aurait été trop bête de dire ben, merci, mais c'est fait quoi. C'était impossible de s'arrêter. Et en fait, tout d'un coup, il y a eu toute une nouvelle notion de se dire que ce projet-là, il pouvait être pérenne, qu'il pouvait être plus grand, qu'il pouvait être plus structuré aussi. Et a commencé en fait tout un chemin qui a d'abord été porté essentiellement par Vanessa, parce que nous, on était bénévoles au début et petit à petit, on est arrivés toutes les unes ou les autres. Et maintenant, par exemple, moi à plein temps. Mais au début, ça a été tout un travail qui a été porté par Vanessa de réfléchir et de structurer pour pouvoir avancer.
Toi, t'as tout de suite voulu te mettre à fond dedans. Enfin, c'était un moment où t'avais le temps, où t'es,
bah,
t'es,
en
tu
fait,
t'es
je
donné
l'ai un peu
le temps.
Toujours vécu comme un enfantement, quoi. C'est un projet à partir du moment où on met tellement d'énergie pour faire émerger quelque chose de rien, en fait. Enfin, c'est la magie de l'entrepreneuriat, quoi. Mais on met un pied dedans et on peut plus s'arrêter. Il y a quelque chose qui est évident, que c'est les jours et les nuits, et que ça mouline et qu'on peut pas lâcher la chose qui démarre. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, il y avait aussi une grosse réactivité et un gros soutien de la communauté des cuisiniers professionnels dès le départ. Et ça aussi, ça a vachement joué dans la réflexion, parce qu'on s'était dit, on va pas faire de l'insertion professionnelle pour démarrer. On s'adresse à une communauté qui veut passer, qui veut pas rester en France, qui veut passer en Angleterre. Par contre, si jamais il y en a quelques-uns qui décident de rester en France et de s'intégrer par la cuisine, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas... Enfin, il faut qu'on puisse tisser un lien. Et donc, on était allé voir dès le départ Akram Benalal, Florent Ladène, en leur disant, Florent parce qu'il était dans la région, dans la région, ouais, et Akram parce que c'est lui-même qui a entendu parler du projet et qui nous l'a proposé, mais de se dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble si jamais il y a des garçons à former. Et en fait, il y a eu plein d'autres chefs et de cuisiniers qui rapidement ont été sensibles au projet. Et ce maillage a pris aussi de l'ampleur et ça avait du sens par rapport à la profession.
Effectivement, il y a beaucoup de chefs. Ouais, j'avais noté aussi Amandine Chéniaud, Manon Fleury, Olivier Rollinger, Michel Troigros. Ils venaient vers vous, vous alliez les chercher, c'était un...
Alors ça, c'est en 2018, sur un coup de téléphone. Enfin, Manon, ouais, Fleury, Alessandra Montagne, on s'est rencontrés sur le Dîner des Humanités qui a été orchestré par Paul Masson en 2018, et qui ont tout de suite dit que le projet leur parlait. On va les chercher. Il s'agit de passer un coup de fil et de leur présenter le projet. Et c'est une communauté de chefs qui sont tellement engagés et tellement sensibles.
Ils sont en phase avec, ouais, avec vos valeurs.
Ouais. Donc voilà, donc arrivé retour de Grande Sainte, l'étape d'après, c'était de penser un peu plus entrepreneuriat, et c'est là où je me suis fait accompagner par Entropia ESSEC, qui est un incubateur d'entrepreneurs sociaux porté par l'ESSEC et qui pendant un an accompagne des porteurs de projets sur la construction d'un budget prévisionnel, d'un business plan social, d'une mesure d'impact, etc. Et donc, ça a été un accélérateur énorme pour le projet et ça a permis vraiment de structurer une pensée aussi pour structurer un projet.
Ouais, et puis de le rendre viable et pérenne. Et...
Après, c'est encore... Ouais, c'est un long processus.
C'est un long processus, oui, mais comment transformer le projet associatif passion en entreprise, enfin, ouais. En tout cas...
Oui, et puis comme on n'est pas des personnes issues aussi initialement de l'univers associatif, il y avait quand même très rapidement une volonté de pérenniser. Et pérenniser, ça voulait dire aussi réfléchir à un modèle qui peut être ambivalent avec une partie associative, une partie de projets qui ont un impact social, mais aussi une partie derrière qui peut à un moment donné s'autofinancer. Et ça, nous, on a toujours été assez à l'aise avec ce fait de créer un modèle qui certes est hybride, mais qui n'est pas juste un modèle associatif.
Donc vous repartez à Grande-Synthe en 2017. Donc en mars, tu disais, vous restez combien de temps là-bas ?
Ça a été une dizaine de jours. Ça a été beaucoup plus concentré comme mission. Et on a fait un partenariat avec des musiciens qui venaient de Londres et qui ont animé workshop musique avec les enfants en parallèle. En fait, on s'est rendu compte d'un truc assez émouvant sur la première mission, c'est qu'au Kurdistan et dans pas mal d'autres pays, j'imagine, il n'y a pas de cuisine sans musique. Et que quand on cuisine un plat, on chante. Et si le plat est bon, c'est qu'on a bien chanté. Et donc, c'est un autre langage universel, la musique, comme la danse. Hein. Et c'était un autre médium, en fait, qui permettait de créer quelque chose ensemble et de se rassembler. Et évidemment, ça prend tout de suite une ampleur énorme et très festive quand on chante et quand on joue de la musique. Donc ça, on l'a intégré à la deuxième mission. On a fini par un grand concert dans la salle de la ville, la salle de fête de la ville, enfin la salle de spectacle, qui est une superbe salle. Et c'est resté dans l'ADN aussi du réchaud, cette idée que on cuisine avec de la musique, que on tisse des ponts, que dès qu'on peut faire des liens artistiques avec d'autres professions, d'autres artistes, on le fait. Et voilà, donc quand on est parti en Belgique aussi en 2017, dans les centres d'accueil, il y avait aussi chaque semaine se clôturait par une fête avec de la musique. Et ici, depuis qu'on est à la table, il y a eu le grand réchaud à Arras en 2018 où la musique a pris beaucoup de place. Et
là,
ici,
c'était quoi, une dizaine de jours ? Non, une dizaine de jours où vous avez fait un énorme restaurant en invitant les populations locales de mémoire et les... Et il y avait des chefs invités chaque jour, c'est ça ?
Ouais, c'est exactement ça. C'était un grand restaurant éphémère solidaire où c'était les réfugiés, c'est comme ça qu'on l'avait dit, qui cuisinaient pour la population. Et en fait, c'était pas juste un restaurant, mais c'était un restaurant qui a vécu au fil des journées de toutes les formes différentes possibles. Donc il y avait des ateliers de cuisine le matin pour cuisiner le repas du midi qui était fait pour les bénévoles. Il y avait aussi... plein de gens différents de la ville. Il y a eu des associations d'enfants handicapés, il y a eu des associations d'enfants, des mineurs isolés, il y a eu des CAP petite enfance. Tout le monde est venu dans ce restaurant, chacun portait sa pierre à l'édifice. Et l'objectif final, c'était que tous les soirs, il y ait 250 couverts qui soient vendus à prix libre. Et tous les jours, il y avait un chef ambassadeur, effectivement, qui était là pour nous accompagner. Et en fait, c'est vrai aussi que ce que disait Vanessa, que finalement, dans ce projet-là, c'est ce qui est le plus simple, d'aller chercher les chefs qui sont engagés. Ce qui est plus dur, c'est toute l'organisation et de créer le moment pour que ça se fasse, en fait. Donc c'est tout le travail en amont de la logistique, de l'opérationnel, d'avoir l'épicerie, d'avoir identifié les producteurs, d'avoir... En fait, c'est tout ce travail de production qui est un travail monstrueux en amont pour que, en fait, le jour J et tout pendant 10 jours, ça ait l'air simple et que la rencontre... Et que, en fait, toute l'énergie soit dédiée à la rencontre et l'humain. Et c'est ce qui s'est passé à Arras. Et c'est ce qui nous a donné le feu pour continuer et aujourd'hui, maintenant, être ici.
Et la magie... Enfin, c'est vrai qu'on ressent cette magie dans le livre qui est dédié, donc qui s'appelle Le Grand Réchaud, qui est dédié à ce projet spécifique de restaurant à Arras.
Le principe, le projet, en fait, c'est simplement un niveau encore au-dessus dans l'ampleur et dans l'ambition. Mais c'est exactement ce qui s'est passé à chaque fois. C'est qu'on a tellement croisé la bienveillance et la générosité des populations locales et on a été frappés, n'étant pas nous de l'associatif avec, à la base. Enfin, moi, je dis souvent, c'est la colère et c'est la désillusion qui m'ont poussé à imaginer ce projet-là. Mais on a tellement été frappé par l'envers du décor qui est bien moins noir que ce qu'on voit dans les médias et qui est bien plus généreuse que ce qu'on voit dans les médias et plus humaine, que en fait le grand réchaud, c'est simplement mettre en lumière et mettre en valeur la solidarité locale. Donc on est à un moment donné un petit détonateur, un petit déclencheur de quelque chose, mais ça se fait à travers nous. Donc c'est toute la collectivité, les associations, mais aussi les entreprises, les commerces, les commerçants, la mairie, les CCAS, les écoles. On invite à un moment donné toutes les personnes qui souhaitent prendre un petit morceau du gâteau à venir. Les portes sont ouvertes et ça se co-construit. Et nous, on est là pour simplement apporter ce qu'on sait faire. Donc, c'est globalement de la coordination. Les bonnes équipes, les bons humains derrière, c'est vraiment un projet qui ne peut se faire que grâce à une équipe. Jamais on pourra mettre des ordinateurs derrière ce projet, on est vraiment sur de l'humain du début à la fin.
Et c'est ce qui vous a donné envie aussi d'aller plus loin et d'ouvrir ce restaurant à Paris, de vous poser et d'avoir un lieu où vous pouvez recevoir le public tout le temps. Enfin.
Ouais, je sais pas si c'est ce qui nous a donné l'envie, mais c'est ce qui nous a ouvert la porte de nouveau. C'est ce qui nous a offert l'opportunité, parce qu'en fait, ce qui est certain, c'est que à la suite du grand réchaud, on s'était dit maintenant, il va être question de se poser un peu, de réfléchir à un modèle nouveau et de développer. Et l'idée de base, c'était de mettre l'accent au début sur l'activité de traiteur. Aussi parce qu'on venait de l'événementiel, qu'on savait qu'on avait déjà pas mal de demandes entrantes, on avait déjà fait quelques opérations, et pour nous, c'était le moyen d'arriver à un modèle qui pouvait se financer. Et l'idée, c'était de partir sur le traiteur. Mais en fait, avec la lumière qui nous a été apportée par le Grand Réchaud, l'association Aurore, qui pilote les Grands Voisins, est venue à notre rencontre pour nous proposer en fait, de prendre la gestion du restaurant au sein de cette caserne. Donc en 2018, on a commencé à en parler, on n'avait jamais vu cette caserne, s'est posé la question de prendre les rênes d'un restaurant éphémère, solidaire, puisque c'est aussi de l'occupation temporaire, et de devenir et d'ouvrir en fait notre premier lieu dans Paris. Et c'est parce qu'on avait l'expérience du Grand Réchaud qu'on a eu l'énergie et la volonté de le faire, mais on n'est pas allé chercher ce projet.
Il est venu à vous.
Il nous est venu, exactement.
Et donc, le fonctionnement du restaurant, donc c'est un chef ou une chef qui chapeaute une équipe de cuisinières réfugiées.
Oui, alors ce projet, c'est vrai qu'il nous permettait... Enfin, il arrivait au bon moment, parce qu'à la fois, ça nous permettait de nous sédentariser, et le nomadisme, ça fatigue beaucoup. On avait besoin de pouvoir nous rassembler à un endroit. Et en plus, ça nous permettait de placer le curseur sur l'insertion professionnelle. Ce qu'on n'avait encore jamais eu la possibilité de faire. On faisait de l'inclusion sociale, de la rencontre, parfois de l'accompagnement. Mais là, d'un coup, on avait la possibilité d'intégrer réellement et de former des personnes statutaires, donc réfugiées, vivant sur place. Et donc, l'équipe s'est constituée ainsi. On avait une chef encadrante au départ et 7 personnes qui bénéficiaient du statut qui s'appelle le dispositif Premières Heures. C'est un peu technique, mais c'est un statut qui a été mis en place par la mairie de Paris pour les personnes en situation de grande précarité qui n'ont pas travaillé depuis 25 ans, par exemple, et qui ont besoin de se remettre en route. Donc, c'est des emplois à temps partiel, entre 6 et 16 heures par semaine. Et donc, avec les personnes qui ont pu en bénéficier, on a travaillé sur du transverse aussi bien salle que cuisine. Pendant un an, on a travaillé essentiellement avec les personnes DPH et la personne responsable de la cuisine et la personne responsable de salle. Et là, on vient d'obtenir les agréments pour être entreprise d'insertion. Donc, c'est-à-dire qu'on passe encore un grade et on peut les embaucher à temps plein. Donc, on n'a pas besoin de 7 personnes à temps plein. Il y a des personnes qui ont trouvé un emploi de toute façon. On a accompagné pour trouver un emploi dans la restauration classique. Il y a des personnes
c'est
qui
ça,
veulent pas
aussi,
travailler.
Enfin, ouais. C'est de les accompagner et qu'ils prennent leur envol.
Tout à fait.
Au final, et ça marche.
Ouais.
Enfin, ça doit être une fierté, ça.
C'est assez émouvant. Aussi de l'expérience d'Aurore et des gens avec qui on est en contact. Donc, Michael, par exemple, qui est encadrant technique. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de projets qui arrivent à faire 5 sorties positives sur 7 personnes avec qui on a travaillé en un an. Donc c'est énormément de travail. C'est, comme disait Vanessa, c'est aussi le travail d'une équipe. On parle des encadrants en cuisine, en salle, mais il y a aussi, maintenant, on a des bureaux aussi à la caserne. Donc on a toute une équipe qui nous accompagne, qui nous permet aussi de passer la seconde sur toute cette ce travail de fond, d'encadrement, de travail social. Et du coup, oui, c'est une énorme fierté. Et hier, on a fait les premiers versements des salaires des garçons qui sont donc depuis le 1er novembre en contrat à durée déterminée d'insertion avec nous. Bon, j'ai pas pleuré, mais presque. Parce que c'est extrêmement, extrêmement fort, quoi. Et on est fiers, très fiers.
La fierté aussi, je trouve que c'est ce que vous arrivez à sortir avec parce que c'est des personnes qui viennent pas forcément du milieu de la restauration, donc qui apprennent tout avec vous. Et c'est vrai que j'étais venue manger et je trouve que c'est incroyable ce que vous arrivez à faire, la qualité, le goût, enfin à la fois hyper simple et hyper goûteux, enfin vraiment je serais fière à votre place.
Il y a vraiment une volonté de départ de cuisinière, du coup, de dire que c'est pas parce que on est sur un modèle de solidarité et de social que ça doit pas être bon. Et ce qu'on fait un peu partout, c'est de casser les codes et de mélanger. Et pour moi, c'est un truc auquel je tiens énormément. C'est de faire de la bonne gastronomie, de la très bonne bistronomie, on va dire, parce qu'on est sur une cuisine qui parle aussi d'humains, de produits, de producteurs, d'artisans. C'est le cœur, hein, il n'y a pas de social sans écologie. Et donc, de faire une cuisine raffinée, une cuisine esthétique, et qui va toucher un public qui viendrait pas forcément dans un restaurant associatif marketé, c'est encore un gros mot, mais restaurant associatif. Et donc il n'y a pas de raison que ce qui est bon, ce qui est beau et ce qui est pourquoi pas même luxueux ne puisse pas être solidaire et social.
En tout cas, c'est super réussi. quelle est l'organisation du réchaud aujourd'hui? Puisque c'est vrai que vous avez le restaurant, tu parlais de l'activité traiteur, le bureau, l'entreprise d'insertion, comment vous organisez tout ça?
On est en phase d'organisation, ça fait un an qu'on travaille justement à structurer et à organiser de manière à pouvoir demain, pourquoi pas, avoir deux restaurants, un grand réchaud en 2022. Donc tous ces projets-là, ça nécessite effectivement de réfléchir à une organisation qui est un peu différente. Donc aujourd'hui, il y a l'association qui est l'ADN, qui est notre naissance en 2016. Adossée à l'association depuis le 1er janvier, il y a une entreprise qui est maintenant une entreprise d'insertion. Et aujourd'hui, dans les équipes vives du réchaud, on a Luciana en charge de la communication, Marie qui est en charge de la recherche de financement pour les projets sociaux, Vanessa qui est directrice générale, moi qui m'occupe de la partie développement. On a des équipes en salle, donc Anya et Lily qui sont les encadrantes techniques, Julia en ce moment en cuisine, et les garçons qui travaillent avec nous. Et en fait, on est en train de travailler, mais comme n'importe quelle entreprise qui structure, hein, à définir une vision, avoir un cadre, définir les rôles et les responsabilités de chacun, faire des points réguliers, avoir des outils, Slack, Zoom, toutes ces choses qu'on a utilisées pendant le confinement pour devenir Trello, exactement, et pour aussi se sortir de ce qui nous a poussé depuis 2016, qui est vraiment un feu, quoi. La flamme du réchaud, c'était de faire quelque chose qui est utile, qui fonctionne. Aujourd'hui, il faut asseoir, développer et changer d'échelle. Et c'est ce qu'on est en train de faire et on le fait, je crois qu'on le fait pas trop mal.
Puis il y a une question aussi financière, c'est-à-dire que c'est un projet qui s'est monté à la sueur de nos fronts, mais qui n'avait pas de mise de départ. Alors, je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans le monde des entrepreneurs sur un projet qui prend quand même de l'ampleur. C'est qu'on est parti de zéro et on est parti simplement des deniers qu'ont bien voulu nous donner les particuliers. Et aujourd'hui, si on veut aussi pouvoir passer la seconde, il va peut-être vraisemblablement falloir qu'on lève des fonds et qu'on fasse rentrer des personnes qui croient en nous et qui ont envie de financer ce projet-là et cette vision. Donc voilà sur quoi on travaille.
En tout cas, vous avez envie d'aller plus loin, plus gros, plus... Voilà.
Ben, on a envie de construire. En tout cas, là, on est sur... on a beaucoup testé de choses qui fonctionnent. Maintenant, on a envie de consolider et on a envie de renforcer, de structurer et de rendre le modèle duplicable. Donc oui, là, il y a un travail à faire.
Bon, on va faire une petite pause. Aller-retour, mon fameux questionnaire. Votre âge ?
86, 34.
Et moi, 88, donc 32.
Votre plat signature que vous aimez faire ?
Moi, j'ai une petite passion pour la chachouka. Donc, je dirais que c'est ça et une vraie passion pour les pâtes. Donc, les pâtes au pesto, pesto d'herbe, pesto de coriandre, pesto de tout. Ça, c'est ma passion à moi. Et toi, en ce moment, je dirais que c'est la babka. Mais je te laisse répondre.
Dernièrement, j'ai fait de la babka, ouais. J'ai fait de la babka.
Des petits pots. Non, pas encore.
et ouais, j'ai investi dans un thermomix pour faire des petits pots de compète.
Votre plat préféré à manger, cette fois?
Alors, moi, j'ai eu la chance de grandir une partie de mon enfance en Asie. Et du coup, tout ce qui touche à la cuisine asiatique, particulièrement les bao qui sont fourrés au char siu, donc au sweet and sour pork, ça, c'est ma vie.
Ouais, ça, c'est très bon. Ça me fait penser au dim sum que j'adore aussi, mais dans des plats comfort food plus français, j'aime tout ce qui est mijoté, tout ce qui est plat partagé. Bon, je sais pas, un plat de mon enfance aussi, un truc que j'adore, c'est les gnocchis.
Rien à voir. Mais...
Rien à voir.
Le chef que vous admirez le plus?
Ça, si j'en dis un, forcément les autres. Ils vont... Ah, il y en a beaucoup pour différentes raisons, mais parmi nos ambassadeurs, Olivier Rollinger pour toutes les valeurs qu'il porte, pour toute l'intelligence et tout ce qu'il renvoie et pour sa cuisine aussi merveilleuse. Michel Troisgros, que je trouve d'une humanité aussi dingue. Manon Fleury et Alessandra Montagne, parce que c'est des soleils et parce que c'est des femmes qui réinventent aussi complètement la cuisine. Chloé Charles, enfin, je sais pas, je pourrais pas en dire. Je ne peux pas répondre à ces questions.
Bah, moi, je sais pas trop répondre à cette question non plus, aussi parce que c'est pas mon univers de... Enfin, je suis pas chef, je suis arrivée là, j'ai quand même une passion pour tout ce qui touche à la nourriture, mais une des chefs qui m'impressionne et dont j'aime beaucoup l'énergie, l'identité et même la cuisine, je pense que c'est Aline Grattard. Aussi parce qu'elle est bourguignonne et que moi je viens de Dijon. aussi parce qu'elle a vécu en Asie et qu'elle a beaucoup de touches de cuisine asiatique qui, moi, me parlent énormément. Donc je dirais Adeline Grattard.
Votre ingrédient préféré?
Le za'atar.
Et moi, je vais dire l'huile. Je trouve ça magique, l'huile. Le gras, c'est magique. Et je suis complètement fan des huileries beaujolaises. Pour te rendre hommage, qui font des huiles merveilleuses et je trouve qu'on peut tout sublimer avec un assaisonnement et la qualité de l'assaisonnement fait pour beaucoup. Et voilà, une très bonne huile d'olive, une très bonne huile d'argan, une huile de cacahuète grillée, une huile de colza grillée ou de tagette, enfin non, l'huile.
Et votre ingrédient détesté?
On peut répondre à l'unisson ou pas?
Mais je crois qu'on est d'accord, je ouais. sais pas.
L'ail?
Ouais. Alors l'ail.
Ah non.
Si. Mais,
non.
Mais
l'ail
mais,
cru,
oui,
qui est balancé sur un poisson en croûte ou qui est oui. mis, enfin vraiment.
L'ail cru.
Celui dont tu passes plus de 48 heures à t'en remettre.
Et encore. Mais un ail confit, très bien cuit ou discret en soutien dans une ratatouille ou dans un gigot, il y a pas de problème.
Ça
mais l'ail cru là qui.
C'est vrai. Votre et moi, j'aime pas trop la tonka. J'ai du mal avec ce mot.
Ah.
Ouais. Voilà.
C'est un peu surfait.
Votre ustensile fétiche?
Oh bah, le réchaud. Hein.
Ah bah, de manière certaine. Le réchaud, tout ce qui touche à la flamme, tout ça.
Le petit barbecue ouais. qui ouais. va bien. Votre dernier meilleur repas en confinement?
Ah, en confinement?
Non, je sais. Enfin,
en
je
confinement,
dis votre
j'ai
repas,
détesté
mais
David Toutain à emporter. C'était pas mal. Le dernier repas mémorable.
Ouais.
Ah bah, attends, à Biarritz, il y a l'époque. C'est super ce qu'il fait.
Moi, je pense que celui qui m'a vraiment marqué dernièrement, c'était le resto que mes amis m'ont offert pour mes 30 ans, et c'était Kay. Et je crois que j'ai jamais aussi bien mangé. D'ailleurs, ouais, si, c'est ça.
Mais c'est le dernier, il y a 2 ans ?
Non, mais pas. Enfin, celui dont je me souviens vraiment, c'est ça. J'ai mangé un milliard de trucs que je trouve délicieux. Le rajapuri de Magda il n'y a pas longtemps, en confinement. Le katsu sando du restaurant cuisine. Enfin, j'ai une passion pour tout ce qui touche au restaurant, donc j'y vais souvent. Mais celui qui m'a beaucoup marqué, ouais, c'était celui-là, je pense.
Non, sinon, moi, j'ai quand même beaucoup et souvent eu la chance de manger chez Guy Savoy, et ça reste des moments de très grande émotion.
Le meilleur compliment qu'on vous ait fait ?
Quand on me dit ou quand on me fait le cadeau de venir me parler de quelque chose qui va pas ou qu'on vient à moi pour peut-être chercher une solution, donc le fait d'être peut-être quelqu'un qui peut être une personne ressource, ça j'aime bien. Et on m'a déjà dit que j'étais lumineuse, ça j'aime bien aussi. Je dirais ça. Et toi, j'ai l'impression qu'il faut que je réponde pour toi. Toi, je pense que c'est la force inégalable de on va faire quelque chose et on va le faire, quoi. Et moi, souvent, je dis « Oh, c'est quand même un peu gros. Ouais, ouais, on va y aller. » Et on y va. Donc, ouais, la flamme. Toujours le feu, la flamme, le réchaud, tout ça. Donc, je dirais que c'est ça.
Et la pire critique ?
C'est toi, récemment, tu m'as dit que c'était pas facile de travailler avec moi.
C'est vrai, j'ai dit ça. Bah, après, c'est comme tout duo, hein. Faut apprendre à s'ajuster, à travailler ensemble. Mais c'est pas que facile, on peut dire. Et moi, je sais pas, je saurais pas trop dire. Moi, j'ai pas très confiance en moi. Donc, souvent, quand on va m'affronter ou me clasher en one-to-one, j'aime pas trop. Donc, ça, peut-être ça.
Comment ne pas répondre à tes questions ?
Ouais, c'est vrai. C'est pas mal, non ?
Bon, l'aller-retour est terminé, mais on n'a pas fini les questions. On reprend sur la suite.
Allez, allons-y.
Qu'est-ce que représente la cuisine pour vous ? Une question facile.
Bah, moi, je sais que ce qui m'a aussi poussée à passer à 100% de ma vie et de mon énergie et de ma carrière dans le réchaud, c'est que pour moi, aujourd'hui, la cuisine, ça vient cocher toutes les cases des choses qui me touchent dans la vie. Donc l'humain, le partage, la convivialité, la chaleur. Moi, c'est pas tant la cuisine dans son côté haute gastronomie et vraiment précision. Et c'est vraiment pour moi, c'est même le cœur d'une maison, c'est la cuisine, quoi. Donc c'est, pour moi, ça vient me chercher sur ça. La famille, la chaleur, c'est ça qui me...
Et moi, je vais répondre l'amour. C'est bateau, mais oui, la cuisine, c'est l'amour.
Un langage aussi, ce dont on parlait tout à l'heure et que vous avez institutionnalisé en langage aussi par les ateliers, où sans parler la même langue, des gens réussissaient à se parler finalement.
Exactement.
C'est ce qui se passait, vous l'avez vraiment ressenti comme ça.
Ouais. Ah oui, bah là, c'est sûr que... Tu montres, tu baragouines, tu... puis on n'a pas besoin de parler la même langue pour rire, sourire, s'échanger des astuces, éplucher une carotte. Ça c'est sûr que la cuisine est un langage universel.
Tout à l'heure, on parlait des chefs qui sont venus vous prêter main forte à plusieurs occasions et de façon bénévole. Est-ce qu'il y a eu une rencontre marquante ? Enfin, en fait, je dis des chefs, mais ça peut être pas du tout les chefs. Est-ce qu'il y a vraiment une rencontre qui vous a marqué dans l'histoire du réchaud ?
Il y en a plusieurs, il y en a tellement. Non, mais c'est dur d'en choisir une parce que, en fait... Partout où on passe, il y a des rencontres qui nous transforment. Et c'est pour ça qu'on continue aussi. C'est notre énergie, c'est notre drogue. C'est des gens merveilleux. Et je pense à cette femme sur le camp de Grande-Synthe qui était une survivante, quoi, qui a fait la traversée, qui a perdu un enfant pendant la traversée, qui était seule. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes seules. Il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes seules. Et qui était là, au milieu du camp, à s'exposer quand les autres femmes ne se montraient pas, à s'imposer. Et elle était extraordinaire. Elle était infirmière et elle travaillait pour des ONG quand elle était au Kurdistan. Et elle était... Enfin, ouais, c'est une image qui me reste vraiment bouleversante. Mais des personnes merveilleuses qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné de la force, qui ont porté le projet, qui nous ont hébergés, qui ont cru en nous. Il y en a tellement.
Ouais. Oui, oui, et puis aussi dans les gens, il y a des bénévoles aussi sur chaque mission et même à Arras qui sont venus quotidiennement. Je pense aussi à Grande-Synthe, à Martine, qui était avec nous tous les jours, qui était une mamie de Grande-Synthe, qui est venue, qui nous a, ouais, qui nous a traité même comme ses petites filles, quoi. Qui nous, enfin, c'était vraiment que de l'amour. Et Paulette à Arras, qui était là tous les jours pour cuisiner, qui est en photo dans le livre, qui, enfin, elle était incroyable. Cyril aussi, qui était un monsieur âgé, on ne connaissait rien de sa vie, mais juste pendant 10 jours, il était là, tous les jours. Il a créé des liens avec des personnes réfugiées, avec nous, enfin, Odile, ouais, enfin, il y en a plein. Et même et ici, aujourd'hui, les liens qu'on est en train de tisser avec Obedoula, Salat, Segei, tous, ces, enfin, tous ceux qui sont avec nous depuis le début, qu'on continue à découvrir, il y a des choses qui sont marquantes, quoi. Moi, je me souviendrai toute ma vie du jour où Valentine a fait manger des moules à Salat, et qu'il a adoré et qu'il continue à en parler et que, enfin, ou des coques, enfin, qui sont des choses qui sont tellement éloignées. Et lui, quand il nous met du chili au citron qui nous arrache la bouche mais qui l'assaisonne dans tout ce qu'on peut lui faire à manger, enfin, voilà, c'est unique, quoi. C'est trop bien,
voilà. comme vous dites dans le livre, c'est le réchaud, c'est plus des histoires que des recettes, finalement.
C'est des tranches de vie, vraiment, et qu'on vit à chaque fois qu'on est en état de savourer pleinement, vraiment.
Et tu te dis, bah, quand t'as plus rien et que t'as tout perdu, il n'y a rien de plus puissant, en fait, que la mémoire du corps. Et de pouvoir se raconter à travers sa propre mémoire, c'est extrêmement intime. Donc les rencontres sont puissantes. Ouais.
Et Manon Fleury dit dans le livre « Cuisiner au grand réchaud, on ne peut plus être chef comme avant ». C'est ce qu'ils vous ont tous dit.
Bah ça, pour le coup, c'est vraiment le plus beau compliment qu'on peut nous faire. On y revient, c'est celui-là.
Oui, Michel aussi avait dit que c'était... Comment il l'avait tourné? Tu l'as pas noté dans le livre? Michel, il avait dit que, aussi pareil, que c'était l'expérience la plus forte quasiment de sa carrière. Bah, en tout cas, ça, on sort de notre zone de confort quand on est dans une brigade bien structurée et qu'on arrive au grand réchaud et que c'est un joyeux bordel et qu'il faut rebondir, s'adapter. C'est sûr que c'est challengeant.
T'as pas ta brigade, t'as pas ton...
Qui parle pas, ton... qui parle pas. Ouais.
Mais pour le coup, pour la petite anecdote de Michel, parce que moi, je m'en souviens encore et je trouve ça mais hilarant, il a fait faire à tous les gens de sa brigade des pommes diamants, donc des pommes de terre tournées. Et au moment où il a lancé le buffet, il a dit... Celui qui, dans son assiette, trouve la pomme de terre à 7 faces, je lui offre un repas chez moi. Et en off, il nous a dit, je les ai toutes vues. Et je sais qu'il n'y en a aucune. Et vraiment, c'était trop drôle. Et il a fait un saumon à l'oseille, mais avec du cresson et de je sais plus quoi, parce qu'il n'y avait plus rien sur place. Enfin, c'était...
Il y a quoi dans le frigo? Ah, t'as du saumon. Ça te dit qu'on fasse du saumon à l'oseille? Il n'y avait pas d'oseille, il y a du cresson. C'est trop classe de faire. Et en fait, et pareil, c'était trop drôle parce que dans l'assiette, il y avait donc le saumon au cresson. Donc lui, quand même, tenait à ce que le cresson soit mis, tu vois, dans la sauce au dernier moment. Donc il s'était pris un apprenti qui venait d'une des écoles et il lui avait dit, tu seras mon second. Donc le gamin était mais fier comme un coq et il courait, le pauvre, il courait pour faire du 5x5 quand on devait servir 200 repas et plonger le cresson dans la crème bouillante. Et finalement, le saumon au cresson a été servi à côté d'un curry indonésien, un truc. Et Michel, enfin, on a des photos, je crois, de la tête qu'il fait, et il a dit, bon, bah, finalement, c'est ça le grand réchaud, mais c'est une espèce de melting pot jusque dans les assiettes, quoi.
Et je crois qu'il raconte aussi dans le livre qu'il t'a dit, bon, bah, ok, mais viens expliquer à mes équipes pourquoi je vais m'absenter.
Ouais, non, mais il y a des trucs.
Le projet aussi, sensibiliser. Pas juste le chef, mais toute la maison aussi au projet. Enfin, c'est l'impression.
Ouais, c'est des choses qui sont assez émouvantes. Sur le moment, c'est vrai, quand tu me poses des questions, brûle pour point, j'ai pas les. Mais le soir, en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais il nous a invités à venir le rencontrer, lui parler de ce qu'on faisait. On a dîné dans sa cuisine avec lui, et donc, enfin, c'est la table d'hôte, donc on est au milieu de sa cuisine. Et à la fin du service, il a demandé à toute la brigade de venir pour qu'on leur explique ce qu'on faisait. Et c'était hyper émouvant, en fait, de pouvoir parler de la cuisine comme lien social et voilà, à tous ces jeunes et à tous ces chefs incroyables, pour aussi montrer qu'on peut prendre ce métier un peu autrement, et aussi parce que je pense qu'ils sont hyper fiers de leur chef. Ils doivent être hyper fiers de leur chef qui s'engage sur ces causes-là. Voilà. Et parmi les choses les plus émouvantes qui nous soient arrivées au Grand Réchaud notamment, c'était avec les jeunes des élèves hôteliers qui sont parfois dans CAP de situations extrêmement précaires, qui n'avaient pas du tout prévu de faire de la cuisine, qui sont un peu paumés, qui sont de milieux très très modestes et avec parfois des a priori extrêmement racistes aussi, et qui pour la première fois rencontraient des jeunes réfugiés et... En début de journée, ils ne voulaient pas leur parler, ils ne voulaient pas partager, ils ne voulaient même pas goûter à ce que les jeunes exilés cuisinaient. Et en fin de journée, ils se pleuraient dans les bras les uns des autres et ils ne voulaient plus se quitter. Et on se dit, en fait, c'est tellement plus simple. Mais c'est tellement mille fois plus simple que ce qu'on veut nous faire croire. Et à partir du moment où on humanise et à partir du moment où on fait tomber les barrières en se rencontrant, on peut tellement dessiner les contours d'une autre société sans tellement d'énergie, quoi. Une journée... C'est de la pâte
à
modeler.
Croire, comme tu dis, que ce sont des personnes.
Mais les gamins, ça les marque à vie.
Penser
et ils ont...
à la télé, en fait, ouais. C'est ça, c'est que les gens, ils ont l'image de la télé un peu méchant.
Ouais.
Alors que pas du tout.
Oui, puis ils connaissent pas. Et c'est pareil, on voit les chiffres, là où le FN fait les plus gros chiffres, c'est les endroits où il n'y a pas d'exilés, il n'y a pas de réfugiés, il n'y a pas d'étrangers. Et on ne connaît pas, donc on a peur. Je pense que c'est dans les gènes des humains, mais on a peur de ce qu'on connaît pas et de l'étranger, mais il suffit de peu pour faire tomber ses peurs. Voilà, on s'éloigne du sujet, de ta question.
Les gens qui viennent ici aussi, enfin, vous sentez que, enfin, est-ce que vous arrivez à faire passer ça aussi, enfin, au restaurant ici dans le 16e
Oui.
Où c'est moins flagrant.
De base, on touche des personnes... Enfin, ce que je trouve intéressant en venant s'implanter dans le 16e, c'est que évidemment les personnes qui sont à 2000% contre et viendront pas, même s'il y a un restaurant. Par contre, les personnes qui sont un peu méfiantes et qui savent pas trop peuvent venir pour une soirée, un dîner ou parce qu'un voisin leur a dit que c'était vraiment super et reviennent. Et reviennent. Et moi, je me souviens d'une petite personne âgée qui était là au début quand on a ouvert. Elle était là tous les après-midi ou début de soirée à boire son verre de blanc et son plateau de fromage dans la cour. Et je suis allée lui parler et je lui ai proposé une mission qu'on mettait en place de portage de repas à domicile par les personnes réfugiées chez les seniors. Et elle m'a répondu « Ah oui, est-ce que vous croyez qu'on peut leur faire confiance ?» Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'elle était là tous les jours au milieu à partager, en fait, à commencer à tisser du lien avec ces personnes en se posant quand même la question de la confiance. Donc ça, c'est super intéressant avec ce type de projet, de faire basculer certaines craintes.
Après, ce qui est certain, c'est que ce qui nous a intéressés dès le début, c'était justement que c'était dans le 16e et qu'il y avait cette ambition de faire se rencontrer des populations qui, vraiment, de base, se seraient jamais rencontrées, quoi. Et on se serait bien passé de toutes les difficultés en plus qui sont venues s'ajouter au fait qu'on était déjà boulevard Exelmans dans un endroit loin de notre cible de cœur, entre guillemets, mais c'est même pas notre cible de cœur, mais on sait qu'un tiers lieu et un lieu comme ça, ça marche très bien dans le 18e, qu'on n'aurait eu aucun problème dans le 19e, dans le 10e on n'en parle même pas, le fait d'aller dans le 16e, c'est ça qui nous intéressait. Et même si c'est difficile à cause des crises, des gilets jaunes, de la crise en ce moment et tout ça, et qu'on nous met des bâtons dans les roues, d'une manière générale, le monde, on est quand même sur des exemples très concrets de liens qui s'est créé, de gens qui sont... Et depuis un an, on a une clientèle de quartier, on a des couples de retraités qui viennent souvent, on a des gens qui viennent nous demander comment ils peuvent nous aider, qui parlent de nous, qui font ce qu'ils peuvent, parce qu'ils sont convaincus que ce qu'on fait, c'est bien. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux de quartier. Et notamment, pour la petite histoire, quand on a fêté nos 1 an, il y a eu un petit peu de bruit. On a eu 2, 3, 10, 15, 30 policiers qui ont débarqué à
30
voitures de policiers parce qu'en fait, les voisins avaient appelé et disaient il y a une fête avec des réfugiés dans la caserne. Donc, il y en a qui sont extrêmement réfractaires, extrêmement virulents. Mais sur ces groupes, il y avait écrit « Qu'est-ce qu'on dit des enfants qui font des fêtes jusqu'à 5h du matin dans les immeubles et personne dit rien, c'est génial ce que fait le réchaud, full support. » Et en fait, on s'est rendu compte que, bah oui, en fait, ce qu'on fait, ça marche. Et il y a des gens qui sont contents, qui viennent, qui reviennent et qui nous le disent. Et ça répare tout, quoi. Et ça nous donne aussi l'énergie pour continuer.
On arrive à la fin sur ces belles paroles. Dernière question indispensable, votre recette à refaire à la maison.
Alors, notre recette à faire à la maison, qui est la recette signature de la pâtisserie du réchaud, je pense qu'on peut parler du carrot cake qui se décline sous plein de formes en fonction de la saison. On a fait des zucchini cakes, on a fait des beetroot cakes, on a fait des pumpkin cakes. C'est toujours la même base. Et après, ce qui est amusant, c'est de changer le légume et de changer aussi le topping. Donc, on peut rajouter des raisins, on peut rajouter des pistoles de chocolat, on peut rajouter des noix ou des noisettes. Ça, c'est vraiment libre à chacun.
Dis-nous tout.
Et donc, tu veux la recette. Donc, il faut de la... Alors, tous les ingrédients doivent être bio et brut. Enfin, je veux dire, pas de sucre blanc... Vraiment, ça joue quoi, la qualité de que ce soit du sucre muscovado et ça. Donc, de la farine, on va dire une farine pâtissière, voilà, une bonne farine. Pour 220 grammes, je vais donner de farine. Un sucre cassonade 150 grammes et 150 grammes également de sucre muscovado. De l'huile et non pas du beurre. Il en faut une huile neutre de tournesol, par exemple, 220 grammes, donc le même poids que la farine. Des œufs, 165 grammes. Ensuite, noix de pécan, raisin, ce qu'on veut, il en faut 120 grammes. Des carottes râpées crues ou de la betterave crue râpée ou de la courge. En ce moment, il y a de la courge râpée crue, 210 grammes. On peut mettre des raisins blonds, 80 grammes, ou des raisins de Corinthe. De la levure chimique, 10 grammes. Du bicarbonate de soude, 5 grammes. De la vanille liquide. De la cannelle en poudre, du 4 épices, du gingembre, selon le goût de chacun. Et c'est important, le sucré salé est plus sucré que le sucré sucré. Toujours mettre un peu de sel dans ses préparations, donc 5 grammes de sel fin. On mélange le tout, les ingrédients secs d'un côté... les légumes râpés grossièrement avec les ingrédients secs, le liquide, donc œufs, huile de l'autre côté avec vanille liquide. On verse le liquide sur le solide et on mélange grossièrement. On n'a pas besoin de mélanger trop longtemps parce que si on mélange trop longtemps, ça développe le gluten et ça en fait un cake qui est plus élastique. Et là, on cherche plutôt quelque chose de léger. On cuit dans un four assez chaud. Jusqu'à ce que ça soit cuit, donc ça dépend de la forme du moule, ça dépend si on le fait plat, si on le fait haut, on peut le faire dans différents moules.
Ouais.
Ouais, si on le fait en cœur, on met la pointe du couteau et on voit si c'est cuit au bout de 45 minutes, a priori ça devrait l'être. Pour le refroidir, avoir encore plus de moelleux, je conseille de l'emballer dans du papier cuisson et dans du film étirable pour garder bien l'humidité à l'intérieur. Et si on peut attendre, le mieux c'est d'attendre 24 heures voire 48 heures, voilà. Et quand on le déballe, on a le droit de faire un petit glaçage à base de citron et de sucre glace qu'on aime et qui donne une petite touche acidulée et gourmande pour peaufiner le tout. Voilà.
Merci Vanessa, merci
Avec
Alix.
Avec plaisir. Et bon appétit bien sûr.
Vous venez d'écouter Vanessa et Alix du Réchaud, épisode 12 de la saison 4. Pour goûter ce qu'il y a dans la poêle du réchaud, rendez-vous au 51 boulevard Exelmans, dans le 16e arrondissement de Paris. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.